Ma préférence,
Irène Finkel,
Jacques Lavergne.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Bienvenue sur Esprit Occitanie. Alors, le magazine culturel d'Esprit Occitanie, ce soir un magazine qui sera très axé sur le livre et la littérature autour du 15e salon du livre d'hiver. On va vous en parler longuement, qui a eu lieu ce week-end à Montgiscard. Donc, je vous propose de commencer par ce salon du livre où j'étais, où j'ai recueilli un peu de sons, comme l'on dit dans le métier. Je vais vous faire entendre le président, je vous ferai entendre également la libraire, parce qu'il y avait un libraire sur place. Et c'est important de donner la parole au libraire sans qui le livre ne serait pas grand-chose. Ou alors, il faudrait aller voir M. Gaffa et on ne les aime pas trop. On préfère sponsoriser nos libraires de terrain qui en plus lisent et sont capables de vous conseiller. Voilà, donc à dimanche, à Montgiscard, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'auteurs de romans, de littérature blanche et noire, comme l'on dit. Il y avait aussi des dessinateurs de BD, il y avait des conférences, quelques ateliers. Et puis nous avons reçu, puisque je faisais partie des auteurs invités, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de monde. Et comme je crois le souligner dans la conversation que j'ai eue avec le président, c'était un monde très agréable parce que, vous savez, dans les salons du livre, la plupart du temps, vous voyez beaucoup de monde passer, peu de gens qui s'intéressent à vous, peu de gens qui vous regardent, encore moins qui vous saluent. Et là, nous avons eu un public vraiment adorable qui parlait, qui venait spontanément, qui était très souriant et on a beaucoup pu échanger avec eux. Et ça, c'est vraiment pour un auteur quelque chose de très agréable. Donc, nous allons écouter une série d'interviews que j'ai réalisées pour vous. Et nous vous retrouverons avec Irène tout à l'heure pour une pause musicale. Donc voilà, nous partons, nous remontons le temps et nous allons au salon de Montgiscard. Voilà, bien nous sommes à Montgiscard, c'est dimanche, avec Philippe Leroyer qui est le président du salon du livre. Alors ça s'appelle le Livre d'hiver, c'est ça Philippe
C'est ça, c'est une association qui s'appelle Livre d'hiver, qui a été créée il y a une quinzaine d'années pour organiser un salon du livre mi-janvier. Et puis là, on met en lumière les auteurs de la région.
Ah, il y a beaucoup d'auteurs, c'est très varié. Il y a du polar, il y a du roman classique, il y a de la BD.
C'est un salon généraliste. On l'a voulu ça dès le départ. Donc il y a de la jeunesse, du polar, de la BD, de la littérature générale, de la poésie. Et on n'hésite pas à ouvrir complètement. Il y a aussi des documents, quelquefois des livres d'humour. On ouvre à tous les genres littéraires.
Alors ce qui était étonnant, ça m'a surpris, ce matin on était là vers 9h30, on a pris le café, vous avez ouvert les portes à 10h, mais déjà à 10h il y a énormément de monde, on n'a pas soufflé de la journée.
Oui, alors ça c'est notre grande réussite, c'est vrai que quand on a lancé le salon, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès, et d'année en année, le succès est toujours au rendez-vous avec énormément de visiteurs, et surtout des gens qui sont là pour voir les auteurs, discuter avec eux, échanger. Et vraiment, c'est un salon de convivialité.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des femmes. Il y a toujours des femmes dans tous les salons parce qu'elles lisent plus que les hommes. Mais ici, il y a aussi des hommes qui ne font pas qu'accompagner madame, mais qui lisent. C'est surprenant.
Oui, alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire cette constatation. On a vraiment un public de lecteurs et de lectrices, et de jeunes lecteurs et lectrices également, et c'est ça qui fait la richesse du salon.
En plus, c'est des gens qui disent bonjour et qui sourient, ce qui n'est pas du tout le cas sur tous les salons. Pour être souvent dans des salons du livre, je peux vous assurer que c'est quand même très agréable quand les gens font un petit sourire, un petit mot. C'est pas du tout le cas. Donc il y a ici une excellente ambiance et surtout, je pense, un très très bon choix d'auteurs. Parce qu'il y a des gens de grande qualité.
Alors ça, c'est toujours difficile de faire des choix. Évidemment, on a un comité de lecture, on a des coups de cœur. On essaye d'inviter des auteurs vraiment qui nous plaisent, bien évidemment, qui ont une activité et une actualité objets littéraires très proches, c'est-à-dire qu'ils ont un livre qui date d'un an, un an et demi maximum, de façon justement qu'il y ait toujours ce plaisir pour les visiteurs de rencontrer les auteurs.
Écoutez, je crois que c'est une réussite, donc c'est la 15e
édition.
15e, et bien on va dire longue vie au Salon du Livre, et bravo, et continuez comme ça, parce que je crois que c'est un bon moment et pour les auteurs dont je fais partie, et pour les lecteurs qui viennent vous voir.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Président.
Je m'endors, là.
Voilà, non, Philippe Georget s'endort. Il nous dit... Philippe Georget, sur tous les salons, à peu près, aujourd'hui.
Ah, ben, on essaye d'en faire un certain nombre. Hein. Ça fait partie, effectivement, comme on dit, du job. La plupart du temps, c'est quand même très plaisant, hein, surtout comme ici à Montgiscard, quand il y a un public nombreux et surtout curieux qui aime découvrir des auteurs, et bien c'est toujours plaisant.
Et beaucoup de livres sur la table, vous êtes un de ceux qui en avaient le plus peut-être, parce que vous êtes un vieil auteur, très productif.
Vieil auteur, oui, j'écris depuis 10 ans.
Oui.
C'est quand même un âge encore raisonnable.
Oui, 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 tout à fait. Ça dépend à quel âge on commence.
Voilà. Et puis bah, j'en suis à mon 6e roman qui est sorti, effectivement, à Mer Méditerranée. Je travaille actuellement sur le 7e. Surtout, ne me dites pas que c'est trop.
Non, jamais, ce ne sera jamais trop. Et le à Mer Méditerranée, donc dernier opus sorti chez Inuit. Inuit, le chiffre. Hein. Maison d'édition, je crois, du Pays Basque.
Installé à Pau, non, alors c'est le Béarn. Non,
c'est le Béarn, là, oui, j'allais dire.
Une grosse soyons bêtise. Rigoureux avec
alors,
les...
qu'est-ce qui se passe dans un mer Méditerranée?
Alors, dans un mer Méditerranée, déjà, donc, ça se passe sur une île imaginaire de Méditerranée. Imaginaire, si l'on veut, puisque certains matins, on ramasse plus de cadavres sur les plages que de coquillages. Donc, avec le titre, déjà, on avait un petit peu compris quel était le thème, avec ce que je viens de dire encore plus. Ça reste pour autant un roman policier qui met en scène donc un personnage de pseudo-journaliste sur cette île un peu de 6000 habitants et qui, un jour, après le naufrage d'un bateau, plonge sous l'eau et découvre dans l'épave deux corps attachés au bastingage dont l'une des personnes a été égorgée. Donc, il s'est passé des choses lors du naufrage que ce personnage a envie de connaître. Il est un peu le seul à vouloir le connaître parce que finalement, ce naufrage a fait une centaine de morts et ils sont nombreux à penser que tous ont été plus ou moins assassinés. Quand on embarque comme ça sur des bateaux hors d'âge, en pleine mer et qu'on est un peu abandonné par les passeurs, quelque part, on a tous été assassinés.
On est en pleine actualité, là.
On est en pleine actualité.
Une tragique que des gens ne veulent pas voir.
Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément une actualité très... porteuse en termes de marketing, hein. Les libraires me le disent, certains quand ils voient le thème reposent le livre assez vite. Alors bon, moi ça m'intéressait de traiter ce sujet, je pensais que par le roman justement et la fiction on pouvait le traiter différemment et l'aborder différemment que dans les reportages. Donc je pense apporter un côté humain peut-être et concret et précis de toutes ces aventures, de tous ces gens qui essayent de franchir la Méditerranée au péril de leur vie, parce qu'on dit que c'est une personne sur 12 quand même, hein, qui périt lors de la traversée, donc on n'est pas loin d'une roulette russe. La roulette russe, c'est une chance sur 6. Bon, malgré tout, ça reste un policier, hein, avec son intrigue, avec ses rebondissements, et je crois que sur la forme, autant que sur le fond, il peut être plaisant.
Alors, à lire d'urgence, on rappelle le titre, à Mer Méditerranée, Philippe Georget, chez Inuit. Merci Philippe.
Merci Jacques.
Voilà, mais je suis avec Marie Bardet, à la droite du père, un roman qui est publié chez...
aux éditions Emmanuel Colas.
Voilà, je ne connaissais pas les éditions Emmanuel Colas, qui se trouvent où?
Alors à Paris, Emmanuel Colas est une éditrice indépendante qui a rejoint un collectif d'éditeurs indépendants, parmi lesquels les Forges de Vulcain, le Nouvel Attila, Plein Jour, au sein des éditions Anne Carrière. Et Emmanuel Colas, précédemment, pendant 15 ans, a dirigé les éditions Galahad.
D'accord. Alors ça, c'est votre premier livre, ça s'appelle « À la droite du père ». Si j'ai bien compris, c'est un peu autobiographique.
Oui, c'est très largement autobiographique, puisqu'inspiré en partie donc, de ma propre famille, qui a été compromise en fait, sous le régime de Pétain, puisque le père dont je parle, mon père était l'architecte du maréchal Pétain. Je suis effectivement née dans sa vieillesse, ce qui explique la différence d'âge importante. Il aurait pu être mon grand-père.
Oui, parce que je vais vous dire, c'est un peu surprenant.
Voilà,
voir une jeune femme.
Donc... voilà, voir mon arrière-grand-père. Mmh. Mais effectivement, j'ai grandi à Vichy, dans cette ville qui est voilà, lourde de ce passé, de cet héritage, avec en plus un père qui avait joué un rôle un peu trouble donc sous l'occupation. Et cette histoire-là m'a profondément troublée. Et même enfant, alors que je n'étais pas en mesure d'analyser ce qui se passait, ça a laissé des empreintes assez fortes. Et ce livre est effectivement une tentative de rédemption. En tout cas, voilà, je réinterroge cet héritage qui ne passe pas, cet héritage assez lourd, qui, au-delà de celui de ma famille, est quand même aussi l'héritage de la France, d'une certaine France qui s'est compromise sous l'occupation. Et donc, je réinterroge cette histoire-là à travers ce personnage de Claire que l'on va suivre depuis la petite enfance jusqu'à ce qu'elle devienne femme, et à travers ses amours qui vont l'emmener au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et où elle va reconfronter à nouveau la question de l'antisémitisme par sa rencontre avec un jeune architecte libanais dont la famille a pris parti pour le camp palestinien au moment de l'invasion israélienne du Liban. Et donc antisionisme et antisémitisme vont comme ça réémerger, et ce couple va revivre d'une certaine façon des traumatismes de l'enfance, puisque ce petit garçon libanais lui aussi avait un père, on va dire, relativement fanatique. Donc les deux ont des héritages très très lourds à porter.
Premier livre, il va y en avoir un second.
Oui, alors celui-ci a reçu un bel accueil, puisqu'il il a eu une sélection au Renaudot au moment de sa sortie en mars 2018. Le prochain, effectivement, est en cours d'écriture. Et puis, par ailleurs, je publie dans une revue de littérature et de réflexion publiée aux éditions Zulma, qui s'appelle Apulée. Le prochain numéro paraîtra prochainement. Donc, on pourra découvrir aussi un de mes textes dans cette revue au mois de mars au Salon du Livre de Paris.
Bien, ben, on va les attendre, et l'un et l'autre. Merci, Marie Bardet.
Merci beaucoup à vous.
Mon Salon du Livre, où on rencontre des Catalans, et notamment Gildas Giraudot.
Bonjour.
Alors Gildas, vous êtes venu avec plein de livres. Le dernier, c'est celui-là.
Le dernier, c'est Django.
Django, voilà. Django, qui s'écrit X-A-N-G-O pour ceux qui ne sauraient pas écrire le catalan, c'est ça ?
C'est ça, mais Django est un demi-dieu de la mythologie Yoruba. Donc en fait, ça nous transporte très loin en Afrique. Et effectivement, ça se prononce comme en catalan.
Donc il y a une parenté entre l'Afrique et la Catalogne ?
Non, du tout. Le Django est une histoire qui commence en Argentine, mais qui nous conduit très vite sur la plage de Canet en Roussillon, donc
oui,
un pays catalan.
Ça fait un grand écart.
Oui, voilà, mais c'est des époques différentes. Et une enquêtrice va partir sur les traces d'un tueur qui va la conduire jusqu'en Argentine. Voilà. C'est un polar avec au premier plan une intrigue comme d'habitude dans les polars, mais aussi en arrière-plan un sujet plus historique, puisque ça permet de revisiter la présence de la France en Argentine des années 50 jusqu'à la fin des dictatures et notamment jusqu'à la guerre des Malouines.
Et c'est édité aux
éditions Au-delà du raisonnable, édition parisienne bien connue.
Merci Gildas Giraudot. On rappelle le titre quand même, je vous laisse le prononcer.
Django.
Django de Gildas Giraudot. Merci Gildas.
Merci.
Voilà, un dessinateur après des romanciers, Meybeck, M-E-Y-B-E-C-K, je le précise pour ceux qui voudraient aller voir sur Internet. Alors qu'est-ce que vous dessinez ?
Eh bien écoutez, je dessine des bandes dessinées de reportages. Enfin, j'ai deux livres de bandes dessinées, deux reportages, on peut dire. Mon premier livre, ça a été un livre qui s'appelle CRA, Centre de Rétention Administrative.
Ah, c'est quand même curieux parce que c'est une inspiration un peu spéciale, on va dire. On ne trouve pas ça sous la plume ou sous le pinceau de tous les dessinateurs.
Non, mais ça s'est trouvé comme ça parce que par le biais d'associations, j'étais dans une association de parents d'élèves et je me suis fait coopter par une autre pour monter un collectif d'aide aux sans-papiers à Tournefeuille, où j'habite. Et donc on a fait ça, et du coup on a été sollicité par une association au niveau européen qui faisait des actions autour des centres de rétention administratifs. Et du coup on a recueilli plein de témoignages de gens enfermés dans le centre de rétention. Et du coup avec tous ces témoignages, j'ai fait une BD. Voilà. Ça a été un enchaînement de causes et d'effets qui ont fait que...
Alors ça, voilà. Ça s'appelle CRA, donc Centre de Rétention Administrative. Et à côté, qu'est-ce que je vois, Cosmos Bacchus.
Cosmo Bacchus, voilà. Ça, c'est une série. Il y a le premier qui est paru et le deuxième va bientôt paraître. Sur un tout autre sujet qui est le vin en biodynamie. Donc l'agriculture biodynamique et notamment la viticulture en biodynamie. Et ça, j'ai fait ça aussi par rencontre, en fait, parce que je faisais des séances de dégustation chez un caviste qui aimait bien la bande dessinée. Et il avait envie qu'on fasse un livre sur le vin, sa cave et tout, machin. Et bon, je me suis dit, on va peut-être pas faire un livre sur une cave. On a cherché un autre sujet, un sujet un peu proche, voilà. Et comme il recevait des viticulteurs en biodynamie, ça m'a interpellé parce que je trouvais ça intéressant, parce que moi j'ai une fille quand même écologiste, mais la doctrine qu'il y avait derrière m'intriguait. Et en creusant la question, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose d'assez étonnant là-bas. Donc on a pris quelques temps, on a fait une enquête, on est allé interviewer des gens qui travaillaient là-dedans pour voir de quoi ils retournaient exactement.
Alors c'est plus de la BD là, c'est du reportage en dessin. La biodynamie, le centre de rétention administratif, c'est des sources d'inspiration peu communes pour un dessinateur de BD. C'est pas vraiment pour les enfants en tout cas.
Non, mais la BD est un moyen d'expression, en fait, qui n'est pas spécialement pour les enfants, même si historiquement, ça a beaucoup été ça. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire de la BD. Et quand j'étais jeune et que je voulais faire ça, je ne me suis jamais dit, je vais faire des reportages ou des... Voilà, moi, c'était plus l'imagination qui me... Mais finalement, je me rends compte par la vie, par les rencontres, qu'il y a tellement de sujets incroyables autour de moi... que j'ai pas besoin d'aller inventer des histoires, quoi.
Oui, voilà, c'est un peu la démarche de beaucoup de romanciers comme moi. On est très paresseux, on se dit que finalement, il suffit de puiser dans l'actualité, il n'y aura pas meilleure source d'inspiration.
C'est ça.
Et vous habitez à Tournefeuille, donc vous êtes très, très local.
Oui.
Merci Maybeck.
Mais avec plaisir, merci à vous.
Voilà Jean-Yves Lorichesse, que nous connaissons à Esprit Occitanie, puisqu'on s'était déjà retrouvés en studio pour parler de vos livres. Alors, quel est le dernier sorti ?
Alors, le dernier sorti qui est paru donc en octobre s'intitule « Les chasseurs dans la neige », paru aux ateliers Henri Dougier, qui est une petite maison récemment créée par un grand monsieur qui est l'ancien fondateur et directeur des éditions Autrement et de la revue Autrement.
Effectivement, oui, voilà. C'est quand même un beau parrainage.
Voilà,
hein,
exactement. Beau parrainage. Et donc, l'autre grand parrain, c'est Bruegel. Voilà, Bruegel, puisque effectivement, c'est un roman qui est inspiré du célèbre tableau de Bruegel l'Ancien, donc Les Chasseurs dans la neige, qui représente donc des chasseurs revenant un peu fourbus et fatigués de la chasse dans un magnifique paysage hivernal des Flandres, avec tout de même à l'horizon des sommets qui sont les sommets des Alpes. Donc ça, c'est la géographie très libre de Bruegel. Et ce tableau m'a toujours fasciné depuis très longtemps. Et un jour, finalement, je crois que j'ai fini par entrer dans le tableau. Ou alors, au contraire, les personnages en sont sortis. Enfin, voilà, c'est
vous
une fiction.
Retrouvé.
En fait.
Mais
voilà.
C'est pas la première fois que vous écrivez à partir d'un tableau.
Absolument.
Hein.
Il y a eu La Loge de Mer, voilà, par exemple, qui était inspirée par la prédelle d'un retable de Perpignan, un retable de La Loge de Mer. Effectivement, les images m'inspirent beaucoup. Et là, donc, j'ai essayé d'imaginer ce qu'avaient pu être les circonstances dans lesquelles Bruegel aurait à la fois vu ce paysage qu'il a ensuite peint et aurait eu l'idée d'en faire un de ses tableaux des saisons, une célèbre série des saisons, mais à travers la rencontre d'un personnage qui pour le coup est un personnage de fiction, qui est une jeune brodeuse qui habite donc pour moi dans ce village, qui est caché quelque part dans une des maisons qu'on voit dans le tableau et qui va être une sorte de médiatrice entre Bruegel et ce paysage de hivernal. Et ensuite, cette jeune fille ira aussi à Bruxelles, dans la maison de Bruegel, pour s'occuper de ses enfants. Donc voilà, c'est à la fois une histoire d'amitié et en même temps aussi l'histoire de la création d'une grande œuvre.
Alors, on rappelle le titre ?
Les chasseurs dans la neige.
De Jean-Yves Lorichesse, aux éditions...
Atelier Henri Dougier.
Voilà, j'espère que vous irez le lire. Ça a dû vous donner envie. Moi, ça m'a piqué un peu. Donc, je pense que je vais le lire très rapidement. Merci, Jean-Yves.
Merci, Jacques.
Alors, Vanessa, de la librairie Ellipse, il n'y a pas de salon de livres sans le... libraire.
Ah oui, c'est ça, le libraire.
La libraire, oui. Et quelle libraire ? Alors, librairie Ellipse, où êtes-vous installé ?
Alors, nous sommes dans ce que j'appelle le Ramonlouze. C'est à Toulouse, à 100 mètres de Ramonville. Voilà.
Vous êtes un peu à cheval entre les deux.
Voilà, on est après la faculté des sciences et juste avant Ramonville. Voilà.
Comment se porte le livre, ou plutôt se portent les ventes du livre?
Très bien chez nous, oui. En tout cas, pas de problème particulier. Noël a très bien fonctionné. Voilà, non. Pas de soucis.
Alors, et le salon, est-ce que ça a été un beau salon?
Oui, un beau salon avec une belle fréquentation. Oui, ouais, ouais, belle fréquentation. Et puis, je pense que les auteurs étaient très contents de voir des belles tables, en fait. C'est vrai que moi, j'ai à cœur de proposer pas que les derniers écrits, mais une belle sélection. Et voilà, les tables sont assez grandes pour ceux qui ne partagent pas. Et ça aussi, c'est un plus par rapport à certains salons où les auteurs sont un petit peu entassés, je trouve.
Oui, mais là, il y avait quand même de la place, c'est aéré, puis il y avait surtout de belles signatures aussi,
oui.
Il faut le dire.
Oui, oui.
Et la fréquentation du public a été à la hauteur de nos espoirs. Donc la libraire, ouais. Ce soir, est contente.
Voilà, très contente.
Voilà, bien, écoutez, rendez-vous donc à la librairie Ellipse, à Ramonlouze.
Ramonlouze,
on va le retenir.
C'est ça.
Merci, Vanessa.
Merci.
Alors, dans les salons, il y a ceux qui écrivent, qui viennent signer, puis il y a des fois des rencontres avec des auteurs qui ne sont pas là, mais qui sont déjà venus et qui sont gentiment venus voir leurs petits camarades en visiteurs. C'est le cas de Christophe Guillaumeau. Christophe, qu'est-ce que vous écrivez ?
Moi, j'écris des romans policiers, parce que je suis policier.
Voilà. Bon, moi aussi, mais je ne suis pas policier. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non.
Non, ce n'est pas une condition, mais bon, je parle de ce que je connais. Donc,
ce qui veut dire que moi, je parle
crédible.
De ce que je connais pas.
Oh, ben, en étant... Si, je pense que vous devez avoir quelques notions quand même. voilà, et donc, moi, j'ai une série, j'ai mis en place un personnage récurrent qui s'appelle, qui est surnommé le Kanak, qui vient de Nouvelle-Calédonie et qui fait sa police sur Toulouse à sa manière.
Avec donc des méthodes qui ne sont pas très traditionnelles.
Avec des gifles amicales.
Voilà, c'est une frustration que vous avez parce que vous aimeriez le faire comme ça?
Non, pas du tout. Mais je me suis inspiré d'un ami à moi qui est malheureusement décédé, mais qui était un vrai personnage, qui mesurait 2,03 m, qui avait la main sur le cœur
Sur la gueule des autres.
Non, parce qu'il suffisait qu'il menace pour qu'on l'écoute, donc ce n'était pas la peine.
Et voilà, sa force pour ne pas avoir à s'en servir.
Exactement. Et voilà, c'était un personnage assez original pour sortir un peu des clichés qu'on voit souvent dans les romans policiers. Et voilà, donc je prends toujours plaisir à écrire sur lui. Et c'est ce que je fais en ce moment. C'est pour ça que je passe pour saluer les amis, et notamment dans ce salon. Mais pour moi, c'est une année plutôt d'écriture et où je me cache des lumières.
Voilà, bah écoutez, c'est bien, mais vous avez été aussi en pleine lumière, parce que, rappelons, vous avez eu le prestigieux prix du Quai des Orfèvres.
Oui, c'était il y a 10 ans.
Mais ça ne s'oublie pas.
Ça ne s'oublie pas, et ça me, voilà, c'est passé très vite, et on se retrouve très rapidement, 10 ans plus tard, avec 3 romans, donc en fait, je prends mon temps.
Bien, écoutez, c'est bien, ça prouve la qualité de l'écriture. Merci, Christophe.
Merci, au revoir.
Voilà, c'était les quelques impromptus que j'ai réalisés dimanche dernier au Salon du Livre. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées, des envies et peut-être d'aller vous précipiter chez votre libraire habituel pour chercher un de ces livres.